Une image pour la beauté ou encore pour imposer son propos? Pour un reflet de naïveté ou celui de la sensualité? Si ce n'est celle de la sagesse ou de l'apport politique, promotionnel ou celle d'un message divin? Accompagnez-moi dans ce parcours et nous verrons ce qu'il en est. Bon visionnement! Alors, bien bonjour à vous tous. Je vous présente aujourd'hui la sixième image qui en est une sur un propos politique que je vous présente encore une fois pour l'émission que je vous offre personnellement, un clin d'œil pour un coup d'œil. Ici, je ne vous cacherai pas le fait que mon choix fut intentionnel pour cette œuvre de l'artiste Jacques-Louis David qui immortalisant de son œuvre, le philosophe grec Socrate. Car effectivement, pour qu'un individu s'intéresse à ce genre de propos, aux aspects de choix, à celle qui n'est pas toujours comprise de part et d'autre, en ce qui fait référence à la politique versus le bien fondé du respect de l'humain pour sa vision, ce qui de toute évidence demeure sujet sensible, puisque l'humain et ses convictions ne sont pas nécessairement du même niveau que ceux qu'en reflète la masse sociale dominante et qu'en représente évidemment le choix massif de cette dominance au pouvoir. Alors, en ce qui concerne le sujet qu'a dû subir ce philosophe grec Socrate de son choix, je vous soulève grossièrement l'histoire que vous pouvez vous-même vérifier à votre guise dans divers livres de philosophie ou sur les philosophes grecs, puisqu'il nous est essentiel de nous en référer à celle-ci afin de tenter de mieux saisir ce que l'artiste, dans le message de son œuvre, cherchait à nous partager. On dit au départ des textes rarissimes sur Socrate que ce philosophe grec cherchait à évaluer comment l'humain pouvait, de ses choix de vie, être à vivre heureux. Bien qu'en soi, je vous en soulève jusqu'ici très peu de son tempérament comme de sa quête à y parvenir, mais toujours est-il, on en a soulevé qu'il s'intéressait principalement de l'aspect moral de choix d'attitude humaine qu'il investiguait car il affirmait volontairement que nul n'est méchant initialement de son attitude, comme de son besoin propre au départ. C'est donc vers l'individu qu'il choisit de s'investir en le côtoyant inconnu directement sur la place publique. Socrate s'imposait subtilement à tout bonnement questionner et sans en avoir initialement conçu une quelconque discussion sur un sujet entre autres. Il n'y avait aucun sujet au départ qui motivait Socrate à aller vers les gens. Et il amenait l'individu de son propre propos, comme de ses réflexions intimes, à lui donner un fil conducteur des plus profonds, où celui interrogé prenait de plus en plus confiance dans les sphères de la vision de Socrate, qu'il ne traînait pas de ce fait à mettre en place et à appliquer. De ce qu'il en avait eu la chance de réaliser de l'échange qu'il considérait des plus bénéfiques avec le philosophe. De répercussion en répercussion, certains de ceux qui eurent à échanger avec Socrate s'imposaient ainsi des divergences, des oppositions, particularités, assurément, pour que l'État s'impose à Socrate de cesser ses interactions d'échange avec les gens du peuple qu'il rencontrait, ce qu'il ne cessa point de cette quête qui le motivait. Les responsables d'Athènes considérèrent de ce fait que Socrate était un danger pour la cité, à, selon eux, corrompre le public ainsi. Ne voulant cesser d'agir de la sorte, il fut condamné à boire le poison, le ciguë, ce qu'il fit pour l'honneur de sa vision comme de sa personne. Ça, c'était en gros ce qui est de l'histoire de ce philosophe grec que fut Socrate. Or donc, sachant ceci, quand on entame la lecture des images de la composition, en haut, à l'extrême gauche, on aperçoit dans l'ouverture, un peu plus bas dans l'ombre, de l'ombre, dans l'arche, quelques personnages. Il y en a trois, plus spécifiquement, qui remontent le prochain palier des escaliers. Alors, ces individus nous démontrent de leur attitude qu'ils sont meurtris de l'état de fait qu'a choisi Socrate, leur ami, qu'ils viennent justement de quitter du caveau de cette prison, car derrière eux, hein, dans les, il y a deux lunettes, deux sortes de fenêtres, on aperçoit encore une certaine lueur du jour, où le jour est en train de tomber au seuil de la nuit. Alors, des trois personnages, l'homme dans l'arrière-plan se tient la tête déconcertée du choix de Socrate de mourir pour ses convictions. L'autre, en avant de lui, le vieillard, près de lui, remonte avec son bâton, le dos voûté et amplifié du volume de sa carpe jaune ocre, qui fait référence évidemment aux émotions, qui nous renvoie de cette posture dans son ensemble que tout besoin propre et personnel ne se limite nécessairement qu'à soi, d'une sagesse qui va de soi. Tandis que le dernier personnage qui nous salue de la main, il reconnaît parfaitement Socrate à en renforcer l'attrait profond et véridique qu'il respecte depuis toujours chez son confrère, que fut son ami Socrate. À cet instant, le rythme de la lecture se dirige vers la tête baissée et éclairée du personnage repenti devant les faits, du choix de Socrate qui s'impose par l'état à reconnaître et à comprendre son ami, où le peintre renforcit à deux endroits cet état de fait. Le premier renforcement, on le voit de cette ligne directive où son bras gauche est éclairé et nous dirige vers sa main, celle du passé, car on peut voir que c'est sa main gauche qui est sous celle de droite. Alors, les mains ont un choix, une désignation symbolique de décision. Alors, la main droite, hein, parce qu'on apprend à lire de gauche à droite, la gauche fait référence au passé de la décision et la droite, celle d'en confirmer l'état actuel et présent quand on confirme l'action posée et assumée par son ami, de la condamnation qu'on peut percevoir au bas, juste à côté de cet individu-là, du papier, du codex qui probablement signifie les conditions qu'on soumet à Socrate, puisque derrière le codex, on peut apercevoir deux contenants, un ouvert et l'autre avec un crayon ou une plume qui est en oblique, à savoir qu'il y a eu une décision et vu que le couvert est ouvert, ben, on comprend que Socrate a décidé de boire le poison pour en finir avec cette imposition que l'État lui impose. La lumière tamisée qui éclaire partiellement les marches derrière l'homme à la tête au profil baissé, la tête baissée, nous amène au renforcement qu'il comprend, même s'il en est accablé, de la posture de l'homme derrière lui qui nous expose son abattement, qu'il en ressent devant les faits. Ce qui nous amène à cet autre individu de dos, partiellement revêtu de son vêtement plein d'énergie, de passion vermillon, qui tend au condamné Socrate la coupe de la cigue, le poison, qu'il ne peut se résoudre à voir, à observer, tant il le connaît, renforcé par les chaînes au sol qui soulèvent que Socrate confirme que de s'empêcher lui-même à sa vérité, est définitivement une prison au quotidien qu'il ne pourrait supporter. Alors, on voit les chaînes sous les deux jambes de l'homme et ça vient encore plus nous préciser l'attitude, le caractère profond de Socrate. Alors, Socrate choisit de mourir pour en réserver, pour en respecter sa liberté comme celle qu'il croit en tout homme possible et disponible. Car le geste de l'index que pose Socrate vers le ciel nous renvoie encore au seuil du châtiment qui lui est imposé, que l'unique liberté comme vérité réside dans l'axiome de Dieu. Évidemment qu'à cette époque, hein, Socrate mourut en l'an 399 avant Jésus-Christ. Alors, on n'avait pas encore la connaissance de Jésus-Christ, mais bon, on savait qu'on avait déjà considéré que l'âme errait et était éternelle.
Alors ici, notre regard se dirige de celui de Socrate sur celui de l'homme assis au premier plan qui tente de maîtriser de sa main droite Socrate, lui proposant de réévaluer son geste qui, de l'assurance du visage de Socrate, affirme la reconnaissance réfléchie de son choix d'action. Vient alors de la lumière de son index soulevé une fente qui est fractionnée d'une brèche qui nous dirige l'observation sur les deux jeunes gens qui ont les têtes côte à côte, aux traits pas vraiment définis. Alors, ça nous expose que les individus ici sont à tenter de saisir et de comprendre ce qu'il en est. Alors, on démontre par cette représentation un peu fluide le manque d'implication de la jeunesse. Et devant ces deux personnages, on voit un autre homme complètement abattu où on peut voir derrière son vêtement bleu qu'il est pratiquement sur la pointe des pieds car il tente de se contenir tellement il est à essayer d'absorber ce qui se passe en se cachant les mains, en cachant son visage de ses deux mains. De ce que toute cette vérité soit celle de Socrate comme celle de l'État lui impose en affirmant à quiconque la vraie réalité déconcertante d'une fabulation inconsciente et insoupçonnée qu'il arborait lui-même. Alors, le peintre a démontré justement cette fabulation par les cordons qu'on voit qui attachent comme une sorte de cache-œil, à savoir que la personne n'était vraiment pas consciente qu'une chose pareille pouvait arriver. Alors, il est dans une fabulation comme plusieurs ne soupçonnent pas. Ce cordon, justement, nous dirige vers l'homme aux cheveux blancs derrière qui tient de sa main gauche son oreille gauche en tentant du geste de sa main droite, se grattant le sourcil du côté droit, qui nous démontre qu'il cherche à comprendre ce qu'il en est de ce qu'il vient d'entendre. Et l'autre personnage derrière, eh bien lui, dans la composition, n'en revient tout simplement pas à de sa posture complètement à dos de l'ensemble des autres personnages. Il nous reflète qu'il refuse totalement l'accablement qui lui donne finalement la nausée tellement il en est inconscient de cette réalité. Très, très belle composition. Assurément, Jacques-Louis David, artiste peintre français, voire militant pour des droits civiques, il nous expose une dure réalité de ceux qui doivent être condamnés d'une réalité qui brime la liberté, qui touchait encore et toujours celui qui s'assume de cette masse d'individus qui demeurent indifférents à la cause et qu'on peut encore aujourd'hui reconnaître certaines fois. Alors, pourquoi cette reconnaissance de gens qui ne s'assument pas? Du nombre des 12 personnages à part Socrate, il y en a 6 qui sont toujours inavoués, hein? Complètement abasourdi devant les faits. Alors, ce propos politique en fut un autre message des plus puissants de l'importance de maintenir la vérité de l'âme sur l'indifférence de certains que leur aventure terrestre ne vient pas aucunement combler. Alors, c'était l'artiste français Jacques-Louis David. Cette œuvre s'intitule « La mort de Socrate », qu'il vous est toujours possible de contempler au Metropolitan Museum de New York et qui fut œuvre qui a fait partie d'une collection privée et de la fondation de la famille de Catherine Lorillard Wolfe. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et à bientôt.